Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique à la une de l'économie ce matin. Pas de jaloux, au nom de l'équité et de la sécurité sanitaire, le gouvernement impose donc aux grandes surfaces de fermer à partir de demain mardi les rayons dits non essentiels. Bonjour Éric Mauban.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors cela suffira-t-il à apaiser la colère des petits commerçants, voire en tout cas les grandes enseignes dénoncent ce matin une solution perdant-perdant.
Voilà, hier, la Fédération du commerce et de la distribution a fait part de sa totale incompréhension et de son opposition à la fermeture de ces rayons non alimentaires. Elle avance plusieurs arguments. Sur le plan sanitaire, la mesure n'est pas justifiée. Cela va compliquer la vie des consommateurs. Ce sera difficile à mettre en place dans certains magasins. Cela va augmenter le chômage partiel et créer une distorsion de concurrence au profit du commerce en ligne. Les grandes enseignes de la distribution ont demandé au gouvernement de réagir rapidement. Elles proposent de privilégier une réouverture progressive des petits commerces sur rendez-vous, accompagnée de mesures de contrôle accrues des jauges actuelles dans les magasins. Une position approuvée par certains maires qui ont d'ores et déjà pris des arrêtés municipaux autorisant la réouverture des petits commerces. Bon nombre d'entre eux considèrent qu'il ne faut pas pousser les Français à acheter sur Internet et à se faire livrer. Un argument de poids que le gouvernement ne pourra pas longtemps ignorer.
Merci Éric Mauban. Pour petits comme grands commerçants, la fermeture de tout ce qui n'est pas jugé essentiel est un cadeau fait aux pure players du e-commerce, Amazon en tête. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, encourage ainsi les commerçants à mettre en place le click and collect, c'est-à-dire la vente à emporter après réservation du produit en ligne ou par téléphone. Alors encore faut-il y être préparé, c'est un peu d'organisation. Reportage Camille Schmitt.
Branle-bas de combat pour Laura qui tient une petite boutique de vêtements en banlieue parisienne.
Je m'affaire à prendre des photos des articles en boutique, en répertoriant toutes les tailles, les prix.
Des photos qu'elle va mettre ensuite sur les réseaux sociaux du magasin.
Les clientes commandent en message privé ou directement sur mon portable et elle vient chercher devant la porte de la boutique sa commande ou bien je la livre à domicile gratuitement.
Un travail titanesque.
C'est une logistique assez considérable. En plus, je suis toute seule pour le faire. Je m'attends pas à un chiffre d'affaires extraordinaire. Après, le faire, c'est aussi se dire que on a tout tenté, tout essayé pour optimiser au mieux les ventes.
Oui, mais encore faut-il avoir les outils techniques. Seulement un peu plus d'un tiers des TPE et PME ont un site internet. C'est pourquoi il faut mettre en place un système d'aide efficace pour accompagner ces commerces dans la numérisation, selon Laurent Munro, président de l'Union des entreprises de proximité.
Il faut des systèmes très simplifiés pour que ça arrive dans les petites entreprises qui n'ont pas les besoins des grands appels à projets qu'on voit pour des grandes entreprises. Quelquefois, des aides du type chèque numérique pourraient suffire.
Hier, Bruno Le Maire a annoncé la création d'un fonds de 100 millions d'euros pour accélérer la digitalisation des commerçants.
Alors, autre élément concernant le click and collect, Bruno Le Maire annonce également que le fruit de cette activité serait à 100% pour les commerçants. Autrement dit, le chiffre d'affaires en click and collect ne sera pas déduit du chiffre d'affaires perdu pour l'accès au fonds de solidarité. C'est important. Bruno Le Maire qui veut aussi mobiliser la Poste qui va mettre en place une plateforme municipale afin de prendre en charge l'acheminement des commandes. Alors, il se trouve d'ailleurs qu'en France, sachez-le, on a un champion tout de même des marketplace. Il s'appelle Miracle, qui travaille pour les galeries Lafayette, Darty, Fnac, Carrefour, Walmart également aux États-Unis. Le patron de Miracle, qui crée donc des marketplaces, propose aux commerçants en difficulté de faire l'intermédiaire avec ses grands clients. Écoutez cette proposition de Philippe Corot, le président de Miracle.
On peut tout à fait mettre en place une adresse email et on traitera les demandes et on redispatchera les demandes vers les opérateurs concernés qui seraient susceptibles d'être intéressés par les produits vendus par ces marchands. Donner accès à des marketplaces qui sont opérés par Miracle, par exemple à Carrefour, à Darty, à Galeries Lafayette, à tout l'ensemble de ces marketplaces, concrètement de développer leur e-commerce, d'accélérer la transformation digitale de leur business. C'est plus qu'une nécessité, c'est un impératif.
Voilà donc pour le commerce et cette proposition du patron de Miracle, Philippe Corot. Sachez également que le nouveau protocole sanitaire publié jeudi autorise les entreprises à dépister leurs salariés. Petit test antigénique à leur arrivée ou à leur départ donc. Sachez tout de même, si vous mettez ça en place en tant que chef d'entreprise, qu'il y a un petit risque juridique. Le protocole, en effet, n'a pas valeur de règlement. Mieux vaut donc agir en concertation avec la médecine du travail. Concernant le télétravail maintenant, alors il n'est pas facultatif, dit Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Mais ce serait mieux tout de même, suggère-t-elle. Cela doit être 5 jours sur 5 si possible. Si des salariés ont d'ailleurs l'impression qu'ils devraient être en télétravail et qu'ils ne le sont pas, ils peuvent, dit-elle, saisir l'inspection du travail. Le reconfinement qui incite par ailleurs les employeurs à remettre une partie de leurs équipes en activité partielle. Le ministère du Travail a ainsi reçu 22 000 demandes sur la seule journée de jeudi contre 5 000 sur toute la semaine précédente. Par ailleurs, contrairement au printemps dernier, sachez que les chômeurs en fin de droit ne verront pas cette fois leurs indemnisations automatiquement prolongées. Des secteurs recrutent, en effet, constate la ministre du Travail. L'aggravation de l'épidémie, enfin, qui fait replonger les comptes publics selon Bercy. Le déficit public est attendu en fin d'année à moins 11,3% contre moins 10,2% précédemment. Le déficit de l'État devrait lui atteindre la dette de l'État, pardon, devrait atteindre 223 milliards d'euros. C'est 4 fois plus que prévu l'année dernière par le budget 2020.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
6h45, la France reconfinée. 4 de nos voisins s'y résignent à leur tour. L'Autriche a compté de mardi jusqu'à fin novembre. Le Portugal et la Grèce, reconfinement partiel à partir de mardi et mercredi respectivement. Le Royaume-Uni, lui, ce sera à partir de jeudi jusqu'au 2 décembre. Au Liban, par ailleurs, couvre-feu national de 21h à 5h du matin depuis hier soir avec confinement total d'une centaine de villages. À l'inverse, au Pérou, réouverture du site Inca du Machu Picchu après 8 mois de fermeture. Pendant ce temps-là, en Chine, l'activité manufacturière a atteint en octobre son plus haut niveau en 10 ans selon Markit. L'indice PMI des directeurs d'achat s'établit à 53,6. La Chine qui attend le reste du monde, car ce sont les exportations qui pénalisent la reprise économique chinoise pour l'heure. L'actualité des entreprises maintenant, avec des résultats qui vont être scrutés de très très près ce matin. Ce sont ceux d'Unibail, Rodamco, Westfield. Alors sans surprise, la foncière qui gère quelques-unes des plus grands centres commerciaux français n'accueille pas avec joie le reconfinement. De janvier à septembre, son résultat atteint 945 millions d'euros, c'est-à-dire une baisse de 29,5% par rapport à l'an dernier. Des chiffres qui tombent une semaine avant une assemblée générale des actionnaires cruciale, mardi prochain, le 10 novembre. Le tandem formé par l'ancien patron d'Unibail, Léon Bressler et Xavier Niel, va tenter de contrer la stratégie de la direction. Céline Cajoulis.
Une augmentation de capital qui vise à donner un peu d'oxygène à la foncière immobilière, dont l'action est passée en moins de 3 ans de 224 à seulement 35 euros. En cause, le rachat en 2017 de Westfield, propriétaire de prestigieuses galeries commerciales à Londres et de malls aux États-Unis, mais aussi à cause de la crise du Covid. Lors de la première vague, les 20 centres commerciaux français sont restés fermés pendant plusieurs semaines. Et avec la deuxième vague, les rares boutiques qui ont le droit d'ouvrir ne vont pas attirer les foules que l'on connaît habituellement à un mois et demi de Noël. Une conjoncture favorable donc aux opérations financières, comme celle menée par Xavier Niel et Léon Bressler, dirigeants pendant 14 ans d'Unibail. Avec leurs 5%, ils veulent bloquer l'augmentation de capital et forcer la direction à vendre à la casse les galeries américaines, car ils le reconnaissent eux-mêmes, en ce moment il n'y a pas de marché. Et puis ils veulent chacun un siège au conseil de surveillance et un troisième pour Susana Gallardo, une riche héritière espagnole, également épouse de Manuel Valls.
En bref, les ventes auto toujours en berne, à moins 9,5% en octobre au global sur un an pour les véhicules neufs. Les marques françaises Renault, moins 9,7, PSA, moins 2,8. Elles résistent mieux que les étrangères. BMW plonge ainsi de 23%, Toyota, moins 32%. L'occasion, en revanche, bondit de 11%. Par ailleurs, sachez qu'un véhicule sur 5 vendu en France désormais est hybride ou électrique. Et puis en Californie, en plus de l'élection présidentielle demain, les électeurs sont appelés par référendum à se prononcer sur l'Uber. Souhaite-t-il, oui ou non, exempter les plateformes type Uber, Lyft ou Uber Eats d'une loi qui transformerait leurs chauffeurs en salariés en échange d'une amélioration de leurs conditions avec paiement par exemple d'un salaire minimum? Selon les sondages, c'est actuellement très serré. Les marchés, bien, ils se sont levés d'un bon pied cette nuit. Au Japon, le Nikkei gagne 1,2% en ce moment. À Paris, vendredi, le CAC plus 0,54%, mais sur la semaine passée, l'indice parisien perd tout de même près de 6,5%, soit son plus fort recul hebdomadaire.